En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 1er octobre 2007, le professeur Jean-François Alilaire, médecin, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Paris et actuellement chef de service de psychiatrie de l'hôpital de la Salpêtrière, a présenté une communication intitulée « Psychiatrie et société » devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvons Jean-François Alilaire en salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord dire en préambule à quel point je suis honoré d'avoir été choisi pour vous parler aujourd'hui de ce très vaste sujet dont je ne traiterai que quelques points, qu'est la relation entre psychiatrie et société. Je voudrais dire que je suis un élève du professeur Jean Delay et du professeur François Lhermitte, qui, je crois, fait partie de vos rangs. Et je voudrais aussi dire que l'Académie de médecine, à laquelle j'appartiens en tant que membre correspondant, a créé, sous la présidence du professeur Vacheron en 2005, une commission santé mentale et psychiatrie dont j'ai le privilège d'assurer le secrétariat avec un président de commission qui est mon maître, le professeur Pierre Pichot, qui a été le premier collaborateur du professeur Jean Delay. Alors, en introduction de mon sujet, je voudrais dire que la psychiatrie a toujours entretenu des liens extrêmement étroits avec la société. Ces liens se sont particulièrement développés depuis que la psychiatrie a été mieux intégrée dans le champ médical, permettant un dialogue permanent entre, d'une part, le corps social qui a ses représentations de la maladie mentale, mais aussi ses besoins de soins, ses options idéologiques, et d'autre part, les psychiatres qui tentent maintenant de théoriser, traiter et penser la folie et la maladie mentale, phénomène d'une très grande complexité, comme nous le verrons, qui se situe au carrefour du biologique, du psychologique et du social. Je voudrais effectivement rappeler que la psychiatrie est une branche de la médecine, qu'elle se caractérise par la complexité de son objet, mais aussi par la nécessité où elle se trouve d'appuyer son modèle théorique à la fois sur les sciences médicales, mais aussi en dehors des sciences médicales sur la sociologie, sur les sciences cognitives, sur l'anthropologie, ainsi que sur une finalité éthique propre. La psychiatrie est de fait guidée par la nécessité de combiner les valeurs scientifiques avec les valeurs humanistes, plus encore qu'aucune autre branche de la médecine. Nous verrons que le XXe siècle aura été marqué par l'apparition de réelles possibilités thérapeutiques qui amèneront les aliénistes, bientôt devenus psychiatres, à refuser la mission devenue quasiment policière, consistant à enfermer les malades dangereux et à garantir formellement leur innocuité pour la société. Après la Deuxième Guerre mondiale, les psychiatres prendront de plus en plus conscience du caractère jusque-là discriminatoire, potentiellement déshumanisant et au bout du compte antithérapeutique des internements psychiatriques, ce qui les amènera à remettre en question la théorie du soin par l'isolement qui faisait auparavant de l'aliéné un véritable invalide social. Parallèlement, les psychiatres prendront en compte de façon croissante dans leur modèle théorique l'influence du milieu de vie humain, du milieu social et de l'environnement en général et feront de ces paramètres un facteur important de l'évolution des troubles mentaux. Les années 50 et 60 du siècle précédent seront marquées par un double mouvement. D'une part, l'ouverture des hôpitaux psychiatriques et le développement d'une psychiatrie de terrain à travers la sectorisation du territoire. mais c'est l'apparition des thérapeutiques médicales modernes et plus particulièrement psychopharmacologiques, avec la découverte du Largactyl en 1952, puis du Valium, du Tofranil et suivant, qui va véritablement permettre la naissance d'une psychiatrie véritablement et totalement ouverte. Soulignons en passant que cette véritable révolution thérapeutique aura été d'origine française, avec les travaux du professeur Jean Delay et de son élève, le professeur Pierre de Nicaire, en particulier la découverte du Largactyl, pour laquelle Pierre de Nicaire recevra le prix Lasker. C'est l'ouverture des hôpitaux psychiatriques sur la société et l'apparition d'une véritable psychiatrie ambulatoire qui amèneront les psychiatres à se trouver de plus en plus confrontés à des situations qui vont bien au-delà de la maladie mentale grave et confirmée, et qu'ils seront conduits à apporter de façon croissante des réponses, leurs réponses, dans le vaste domaine de la souffrance psychique et de la santé mentale des citoyens. Nous verrons que ces évolutions se feront parallèlement au développement de polémiques autour de l'antipsychiatrie, de la psychanalyse, des thérapies comportementales, mais aussi des thérapeutiques biologiques comparées abusivement à une camisole chimique et aboutiront à influencer très largement et à modifier radicalement le dialogue entre la psychiatrie et la société. Je voudrais maintenant évoquer quelques points d'histoire sur les relations entre psychiatrie et société. Pour comprendre la situation de la psychiatrie actuelle dans nos sociétés, il faut évoquer brièvement son histoire et même sa préhistoire. Les historiens de la médecine ont pu parler d'antépsychiatrie pour désigner la longue période au cours de laquelle les malades mentaux, considérés comme des fous, ont été les victimes d'attitudes sociales, morales, religieuses, correspondant à des principes en opposition frontale avec notre psychiatrie actuelle, fondée sur les principes de scientificité et d'humanité. Rappelons aussi que, contrairement à notre conception moderne qui distingue les deux domaines que sont le normal et le pathologique, la médecine primitive distinguait trois domaines, le normal et le pathologique d'une part, considérés comme naturels, et par ailleurs la catégorie du surnaturel avec sa double composante magique et religieuse. On peut dire qu'un pas essentiel sera franchi lorsque les médecins après Hippocrate se dégageront des pratiques magico-religieuses et s'attacheront à fonder une médecine établie sur des principes rationnels, quoique pré-scientifiques, qui aboutiront à la description de trois entités pathologiques mentionnées par les écrits traditionnels gréco-latins, à savoir la phrénitis, qui correspond aux troubles mentaux aigus et fébriles, la manie, qui correspond aux troubles mentaux avec agitation sans fièvre, la mélancolie, qui correspond aux troubles mentaux chroniques sans fièvre ni agitation. Cette classification restera valable pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Plus tard, Galien concrétisera et synthétisera ses découvertes cliniques avec la doctrine des humeurs, dérivée de la conception hippocratique. Enfin, le christianisme introduira l'idée suivant laquelle soigner les malades est un devoir religieux, ce qui aboutira à la création d'hôpitaux, mais aussi à la pérennisation des explications démonologiques de la folie. À la fin du monde antique et sur les décombres de la culture gréco-latine, le monde arabe et le monde byzantin transmettront aux médecins du Moyen-Âge l'héritage de Galien, pour qui les maladies mentales figurent au chapitre des maladies de la tête, tout en développant le souci du soin à travers les institutions charitables. Encore plus tard, la Renaissance sera marquée par les contestations du système de Galien, en particulier par Paracelse, qui renouvellera l'exigence d'observation clinique, claire et sans préjugés, qui avait été préconisée auparavant par les anciens comme une véritable sémiologie naturaliste des différentes variétés de folie. C'est ainsi que, à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, Jean Vierre s'efforcera de montrer, par des observations cliniques rigoureuses, que l'on avait brûlé comme sorcières de nombreuses femmes atteintes de troubles mentaux. Un peu plus tard, c'est Thomas Willis qui incorporera au sein de la psychiatrie l'étude du système nerveux grâce à ses importantes découvertes en anatomie et en physiologie du cerveau et de son système artériel. Sydenham s'efforcera un peu plus tard de dégager des entités spécifiques et d'établir une classification de toutes les maladies par classe, genre et espèce naturelle qui préfigurera la classification de Boissier de Sauvage dont s'inspirera partiellement Philippe Pinel. C'est dès le début du XIXe siècle que les préoccupations sociales et les conceptions médicales se rejoignent, en particulier avec Pinel et sa conception médico-philosophique de l'aliénation mentale. Il faut rappeler ici que Pinel est un médecin, adepte de la philosophie des Lumières, qui propose de considérer les malades comme des citoyens temporairement privés de leur raison. Sa conception est basée sur les relations entre émotions fortes et folie. C'est lui qui va développer les premières thérapeutiques sous la forme de la thérapie morale qui consiste à s'adresser à ce qui reste de raison chez l'aliéné pour le sortir de l'aliénation. C'est l'ancêtre de la psychothérapie. Son élève Esquirol préconisera la mise à l'écart de l'aliéné et conceptualisera la théorie du soin par l'isolement avec la fameuse loi du 30 juin 1838 et la création d'hôpitaux départementaux d'aliénés permettant d'accueillir, d'isoler et de traiter ces patients en exerçant sur eux une contrainte thérapeutique au nom du risque de dangerosité. Dans le même temps, la société va se préoccuper de plus en plus des insensés auxquels elle souhaite porter assistance tout en les regroupant puisqu'ils sont responsables de désordres sur la voie publique. Sous l'effet du mouvement culturel des Lumières, le rationalisme se développera et contribuera au déclin des croyances aux démons et aux sorciers, transformant la possession diabolique en manifestation de délire, d'obsession, au sens de sujet assiégé autrefois par les démons et dorénavant par des idées obsédantes. Au XVIIIe siècle, les établissements pour les malades mentaux, inspirés par le modèle de la prison et du monastère, avaient mélangé pêle-mêle, d'une façon plus ou moins choquante à nos yeux, des populations aussi différentes que les aveugles, les sourds-muets, les débiles mentaux, les prisonniers, les délinquants et les malades mentaux. Un traitement plus humain de ces derniers est alors progressivement introduit par plusieurs pionniers, Chiaroggi à Florence, Daquin en Savoie, Tuke en Angleterre et bien sûr Philippe Pinel à Paris. C'est en 1793, à l'hôpital de Bicêtre, en pleine terreur révolutionnaire, puis en 1795 à la Salpêtrière, après les événements de Thermidor, que Pinel, avec l'aide de Poussin, qu'on a appelé le gouverneur des insensés et qui préfigure la fonction de l'infirmier et du surveillant en psychiatrie, Pinel donc procédera à la libération des malades mentaux, hommes puis femmes, en leur ôtant leurs chaînes, symbole d'infamie et de crime. Il introduira les réformes et la mise en œuvre des principes du traité médico-philosophique, publié en 1801. Ce traité marquera tout le début de la psychiatrie moderne du XIXe siècle par la description très claire des principaux titres des maladies mentales regroupés derrière le concept de l'aliénation mentale, ainsi, comme je l'ai dit plus haut, que l'ébauche d'un système de traitement rationnel et humain appelé le traitement moral. Pendant une centaine d'années, la psychiatrie asilaire va à la fois consoler et classifier, pour reprendre l'expression et le mot de l'historien américain Jane Goldstein. De fait, la psychiatrie après Pinel sera marquée par des personnalités comme Esquirol, puis Moreau de Tours, Falleret ou encore Morel, qui compléteront l'édifice clinique de la psychiatrie française au sein des asiles d'aliénés, créés à partir de la loi du 30 juin 1838. Un peu plus tard, ce sera l'apport de Charcot et de Bernheim pour leurs travaux sur l'hystérie et l'hypnotisme qui vont marquer la psychiatrie. On sait que ces travaux susciteront des débats publics repris dans la société civile avec un véritable engouement dans la mesure où ils concernent les frontières du normal et du pathologique et correspondent à des comportements fort répandus dans la société de cette fin du XIXe siècle. C'est au tournant du XIXe et du XXe siècle que Pierre Janet en France et Sigmund Freud en Autriche élaboreront des théories mettant en valeur l'importance du subconscient et de l'inconscient, dont on connaît surtout les développements actuels avec la psychanalyse. À partir des années 1920, on assiste au développement de très nombreux courants théoriques dérivés pour les uns de la philosophie, et plus particulièrement de la phénoménologie, et pour les autres de théories scientifiques concernant le comportement animal et humain, en particulier avec Pavlov et les théories sur l'apprentissage des comportements animaux transposés à l'homme. Nous irons très vite pour terminer ce rappel historique en ne faisant que citer les grands courants modernes que sont la psychiatrie biologique actuelle, la psychanalyse et ses avatars, ainsi que les autres courants psychologiques et scientifiques qui vont de l'hypnose aux théories systémiques, en passant par les sciences cognitives, la psychologie clinique ou l'éthologie. Comme nous l'avons rappelé plus haut, depuis la révolution thérapeutique introduite avec le Largactyl en 1952 pour les psychoses, avec les sels de lithium dans les années 60 et 70 pour les troubles de l'humeur et la psychose maniaco-dépressive, notre psychiatrie actuelle est marquée par l'importance des découvertes en pharmacologie et en neurosciences, ainsi que par toutes les connaissances sur le fonctionnement cérébral apportées par les sciences cognitives et l'imagerie en particulier, mais aussi les connaissances sur les bases neurales des troubles psychiatriques et l'importance des facteurs neurochimiques et neurogénétiques. Parallèlement, chacun connaît l'importance du renouveau de la psychiatrie sociale, avec l'intérêt croissant porté aux addictions, aux perversions et autres déviances, ainsi qu'à la délinquance. À propos des addictions, soulignons ici deux points. Tout d'abord, la gravité en termes de santé publique actuellement de la consommation des drogues, qu'il s'agisse de l'alcool, du tabac, du cannabis, des opiacés, de la cocaïne, et j'en passe. Mais aussi le mésusage des tranquillisants, tout particulièrement dans la population française lorsqu'on la compare à l'Europe ou au reste du monde. Pour terminer, le tournant du siècle semble marqué par l'acutisation et la cristallisation des différentes formes de la souffrance individuelle et collective, manifestées sous la forme de crises chez les individus. La difficulté des problèmes posés et des réponses à apporter mène actuellement nos sociétés, obnubilées par le principe de précaution, à préconiser une généralisation de l'aide psychologique, voire psychiatrique, pour tous les citoyens et à mettre en place des politiques de prévention, éventuellement entachées de présupposés idéologiques de toute nature, qu'ils soient génétiques, sociogéniques ou encore, dans certains cas, antipsychiatriques. Je voudrais maintenant entrer plus avant dans le vif du sujet et vous proposer quelques réflexions sur les relations actuelles entre psychiatrie et notre société actuelle. D'abord, pour insister sur le rôle des structures associatives dans la société moderne. La société actuelle, en effet, se caractérise par le dynamisme de la vie associative qui correspond à des pratiques sociales de plus en plus répandues depuis la création des associations type loi de 1901. C'est grâce aux associations que le malade mental peut de plus en plus passer de l'état d'objet de soins à l'état de sujet, membre à part entière de notre société. La récente loi du 4 mars 2002 dont nous reparlerons, reconnaît très précisément l'importance des associations en tant que véritable outil thérapeutique dans le quotidien des malades, s'appuyant sur des médiations ergothérapiques et sociothérapiques variées. Les associations peuvent de plus en plus constituer un support permettant aux malades d'exercer de façon aussi normale que possible leur sociabilité et d'améliorer leur qualité de vie tout en avançant vers l'objectif de soins, de réadaptation et de réhabilitation. Greffée au départ sur les établissements psychiatriques et les secteurs psychiatriques pour lutter contre leurs effets iatrogènes et permettre aux malades de se sentir partie prenante et acteurs de leur propre guérison, les associations se sont de plus en plus engagées dans des actions sociales, culturelles, collectives, concernant l'ensemble de la société. Ainsi a pu se mettre en place une synergie entre différents types d'actions permettant de fabriquer du lien social, si vous me passez l'expression, pour mieux articuler l'individu au groupe et lui permettre de formuler ses besoins dans un espace collectif. Il existe différents types d'associations, depuis les associations gestionnaires d'établissements ou de services, en passant par les associations greffées sur des établissements publics de soins, jusqu'aux associations de défense des droits, des intérêts ou des pratiques particulières nécessaires pour le traitement de certaines affections mentales. Ainsi peuvent être rassemblés autour du malade les professionnels du soin, les bénévoles, les familles, les usagers, les professionnels du logement, de l'entreprise, de la culture, etc. On peut considérer qu'à l'heure actuelle, les associations permettent de dégager les orientations qui favorisent la lutte contre un cloisonnement entre psychiatrie et société. En conclusion de ce chapitre, l'évolution du corps social depuis les 30 dernières années a généré le développement de structures associatives qui jouent le rôle de structures intermédiaires entre le corps social et les organisations de soins psychiatriques. Elles permettent de décloisonner, de fabriquer de nouveaux liens sociaux, tout en permettant une amélioration de la réhabilitation et de la déstigmatisation des malades mentaux. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, les gens qui allaient à Charenton ou tout autre hôpital psychiatrique de sa région étaient considérés comme des tarés à éviter. Maintenant, je voudrais évoquer les nouveaux partenariats entre les travailleurs sociaux, les soignants, les patients et les ex-patients. Parmi les maîtres mots de notre modernité actuelle, des mots tels que partenariat, réseau ou encore convention font florès. Plusieurs facteurs ont contribué à cet état de fait récent. Tout d'abord, à notre époque de désinstitutionnalisation, depuis l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, il apparaît clairement que la question de l'offre de soins psychiatriques ne peut plus être pensée hors du contexte social. En effet, la plupart des patients sont suivis en ambulatoire, vivent dans leur famille et bénéficient de l'aide de structures dites médico-sociales. Une psychiatrie communautaire s'est développée dans la cité, obligeant la psychiatrie hospitalière à infléchir ses modes de fonctionnement pour développer une approche plus globale du patient avec un souci constant de coordination efficace entre tous les acteurs du tissu sanitaire et social. De plus, le modèle qui prévaut en santé mentale associe, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de l'individu. Ceci amène de nombreux observateurs à qualifier la psychiatrie de discipline médico-sociale, rajoutant ainsi une dimension d'espace naturel d'exercice au sein de la société, au fait essentiel de départ qu'il s'agit d'une discipline médicale à part entière. Un deuxième facteur a joué un rôle essentiel dans cette évolution en déplaçant l'intérêt pour le malade de la pathologie mentale vers la question de la santé mentale et de la souffrance psychique, avec l'apparition depuis ces dernières années d'une sorte de droit au bonheur, et de ce fait, de nouvelles sollicitations ont pu être adressées aux psychiatres par les patients et la société avec le risque fréquent de tomber dans une médicalisation excessive des problèmes sociaux ou existentiels. Un troisième facteur est constitué par les contraintes économiques dont on sait l'importance à l'heure actuelle dans le domaine médical, aboutissant à la nécessité de partenariats nouveaux pour développer des réponses à des demandes inflationnistes de la société en matière de santé mentale, qu'il s'agisse de la prise en charge des exclus, des minorités, etc. Enfin, l'importance des mouvements d'usagers, en particulier depuis la loi du 4 mars 2002, c'est encore assez récent, a rendu encore plus aiguë la nécessité de faire une place à l'ensemble des partenaires et à élaborer de façon citoyenne les politiques de santé en ajustant les points de vue des partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux, ainsi que ceux des usagers et même des élus. Pourtant, il ne faut pas méconnaître le risque d'une dilution des problèmes psychopathologiques dans le social et d'une démédicalisation des soins, avec le risque d'en faire, faute de moyens économiques suffisants, faire des soins, un recours ultime et sous-dimensionné, là où l'action des partenaires du soin en santé mentale reste indispensable pour de très nombreuses maladies. À cet égard, nous souhaitons souligner l'importance de la confidentialité des échanges d'informations sensibles lors du colloque singulier entre le patient et son psychiatre. Cela nécessite de la part des médecins une attitude extrêmement critique vis-à-vis du mythe de la transparence au nom de l'efficacité. Le trouble mental concerne le psychisme et se trouve donc indissociable de l'intimité, de l'intime du sujet, qui est alors institué comme un individu, un être singulier souffrant, créateur de significations personnelles qui font toute la singularité de sa propre subjectivité. Le secret médical est et demeure une condition fondamentale, indispensable, pour fonder, à travers la relation médecin-malade, le soin en psychiatrie. Quelques mots maintenant sur les droits des malades. Notre société actuelle se caractérise par une floraison de textes législatifs précisant tout ce que l'état de maladie confère comme droit aux patients en face des médecins, des systèmes de soins et des institutions sociales. Cette situation contribue grandement à la judiciarisation de la relation médecin-malade. La loi du 9 juin 1999 a énoncé un principe visant à garantir le droit à l'accès aux soins au sein d'un texte consacré aux droits de la personne malade et des usagers du système de santé. Cette loi stipule que la personne qui est malade ne perd pas pour autant les droits fondamentaux dont elle dispose en tant que citoyen. Cette volonté politique de mieux garantir les droits des malades a été ultérieurement confortée par la fameuse loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins. Ainsi se sont trouvés garantis plusieurs principes fondamentaux que nous évoquerons rapidement. Le droit aux soins, qui ne doit pas être empêché par des considérations financières et qui suppose qu'un minimum de moyens soit mis à la disposition des patients en nombre suffisant avec un accès facile. Les médecins ont une obligation de moyens, pas encore d'obligation de résultats. Le libre choix du praticien et l'établissement de soins par les patients constituent ensuite un principe essentiel de notre système de soins. Notons au passage que ce principe est en contradiction avec celui qui prévaut en France de la sectorisation psychiatrique ou avec la limitation du nombre des actes pour certains praticiens, en particulier les praticiens libéraux, ou encore avec l'assurance maladie qui fait obligation au patient de se faire soigner dans l'établissement le plus proche de son domicile. Ce qui évidemment est particulièrement valable pour les malades mentaux qui sont dans une situation sociale précaire et financièrement souvent inexistante. Le droit à l'information et au consentement. Ce droit stipule que le médecin doit informer le patient en vue d'éclairer son consentement aux soins et lui permettre d'adapter sa conduite à la maladie et à la thérapeutique prescrite. Le législateur énonce ici l'idée que tout homme éclairé serait apte à prendre des décisions rationnelles, y compris dans le domaine de sa propre santé, et qu'il peut avoir un accès direct à son dossier médical. C'est le décret du 29 avril 2002. L'information doit être réalisée avec précaution, de façon progressive, et l'accès aux soins doit être accompagné afin que l'information soit claire, loyale et appropriée. De plus, le droit d'accepter ou de refuser les soins proposés doit être libre, éclairé et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Vous aurez remarqué que cette loi s'adresse au cas général et n'a pas réfléchi au problème des malades mentaux. Le droit à la liberté. L'hospitalisation d'une personne sans son consentement est une disposition dérogatoire au regard du droit commun. En effet, la loi d'hospitalisation sans consentement du 30 juin 1838, puis plus récemment du 27 juin 1990, cette loi a créé ce pouvoir de privation de liberté, répétons-le à titre dérogatoire, pour ordonner des soins sous contrainte. L'autorité administrative a donc ici un pouvoir de décision sous couvert d'un avis médical et charge des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques de veiller au respect de la liberté et de la dignité des personnes hospitalisées sous contrainte. À l'heure actuelle, les nombreuses affaires criminelles font discuter un certain nombre de projets évoquant la possibilité de soins sans consentement, dissociés de l'hospitalisation sans consentement, ou encore de suivi médico-judiciaire, comme par exemple avec la loi de 1998 sur les agresseurs sexuels. Autre droit, le droit de ne pas souffrir. Le Code de la santé consacre le droit de ne pas souffrir chaque fois que cela est possible. On note qu'il est plus question de la douleur physique que de la souffrance psychique. Il suppose de pouvoir bénéficier de soins appropriés et renvoie au consentement aux soins quand cette souffrance empêche de consentir aux soins. Le droit à la sécurité et à la qualité des soins. Je voudrais simplement signaler à ce sujet que c'est l'affaire du sang contaminé et du virus de l'hépatite C dans les années 80 et 90 qui a conduit à renforcer la sécurité et la qualité des soins. Il est à noter que cela privilégie un principe de précaution dont résulte parfois une modification radicale de la relation entre le médecin et son malade et peut aboutir dans certains cas à une altération de la qualité relationnelle nécessaire aux soins. Enfin, le droit à un choix de vie différent. Notre société actuelle se caractérise par une transformation radicale des mœurs et par des modifications de la structure familiale avec les familles monoparentales éclatées, dispersées, la formulation de demandes d'adoption par les homosexuels, la demande de transformation de sexe morphologique par les transsexuels, etc. Dans tous ces cas, la psychiatrie est interrogée pour donner un avis sous forme d'expertise. La question se pose de savoir quelle est la légitimité scientifique dont la psychiatrie peut disposer pour donner ses avis. Je vais évoquer maintenant quelles sont les réponses possibles pour les nouvelles demandes émanant de la société. Il est notable que les demandes faites à la psychiatrie ont connu depuis les années 1990 un accroissement de 3 à 5% par an environ, qu'il s'agisse des urgences, des demandes concernant les exclus, les victimes, les détenus, les personnes âgées et d'autres groupes sociaux encore. Il est notable aussi que ces demandes s'expriment de plus en plus, non pas sous la forme de demandes de consultation et d'avis donnés, si j'ose dire, à tête reposée, mais dans un contexte de crise et de décompensation de l'équilibre des individus, avec un recours par ceux-ci ou leur entourage, le recours préférentiel à l'urgence, comme un moyen, parfois détourné, pour obtenir une réponse immédiate, ce qui encombre beaucoup les urgences des hôpitaux, par exemple. Ceci correspond à une tendance marquée dans nos sociétés actuelles. Cela traduit la prépondérance croissante chez nos concitoyens de la tendance au passage à l'acte, de la prépondérance de l'instantanéité et de l'action immédiate et sans délai, plutôt que la réflexion et la prise en compte de la durée. Ce recours croissant à la crise comme mode de formulation des demandes semble effectivement en lien avec les changements globaux du corps social, mais aussi avec l'évolution de l'image du psychiatre qui connaît une transformation marquée, renforçant l'ambivalence du grand public vis-à-vis de son personnage, à la fois supposé tout savoir. On n'a qu'à voir dans certains films les rôles de psychiatres qui sont campés au cinéma, tout savoir jusqu'à preuve du contraire, en même temps qu'il est jugé tout-puissant mais irresponsable dans la mesure où il laisse en liberté des fous dangereux. La psychiatrie se trouve donc contrainte à l'heure actuelle à une réflexion éthique, clinique, organisationnelle, nécessitant le développement de formations, l'utilisation d'outils spécialisés, et bien sûr un nouveau regard pour permettre de repréciser le périmètre d'inclusion et d'exclusion de ces nouvelles demandes et de toutes les situations sociales inédites et particulières. Il est toutefois à noter que cette inflation des demandes reste encore pour l'instant d'un niveau inférieur à ce que laisserait supposer la prévalence des troubles psychiatriques. Autrement dit, les chiffres connus de mortalité des pathologies psychiatriques qui aboutissent à des chiffres qui sont supérieurs à ceux de la demande actuelle en soins psychiatriques. Maintenant, quelques mots sur l'image de la psychiatrie dans la société contemporaine, avant de conclure. Plusieurs changements ont marqué profondément la psychiatrie ces dernières années. Ces changements sont liés à de nombreux facteurs, au premier chef desquels les progrès indéniables dans le domaine des neurosciences, de la psychopharmacologie et le développement des connaissances médicales en général. C'est ainsi que la compréhension et le traitement des troubles mentaux a connu une évolution considérable, nous l'avons dit. L'autre facteur essentiel tient à l'évolution des mentalités et à la place de l'individu dans la société, ainsi que l'évolution des mœurs. Malgré ces changements considérables, il apparaît que deux images de la psychiatrie persistent au sein de nos sociétés. D'une part, celle positive d'une psychiatrie susceptible d'apporter un soulagement au mal-être social de chaque individu, mais d'autre part, celle plus ancienne et négative qui fait encore peur d'une psychiatrie qui interne, enferme, drogue l'individu à tout va pour en faire une sorte de zombie. Cette représentation double est liée à ce qu'a été la psychiatrie du XIXe siècle et sous-tend la peur viscérale de la folie, toujours vécue de nos jours par l'individu comme une perte du contrôle de soi, rejoignant l'image classique de l'aliéné. Il apparaît clairement que les espérances suscitées à juste titre par la médiatisation des données scientifiques et des espoirs thérapeutiques qui concernent la médecine et la psychiatrie ont abouti à augmenter les demandes individuelles et collectives à l'égard de ces soins. On peut évoquer ici le terme de « promesse thérapeutique » qui a l'avantage de véhiculer une moindre stigmatisation de la maladie mentale qu'elle ne l'était auparavant et qui peut faciliter la démarche de soins pour des patients qui autrement n'auraient pas consulté et qui relèvent de ces soins et peuvent être améliorés. Mais cette idée comporte le risque d'une idéalisation excessive du soin et d'une croyance illusoire dans des résultats thérapeutiques rapides, alors même qu'au-delà des symptômes les plus bruyants, de la dépression, de la psychose, des addictions, il s'agit de traiter la souffrance individuelle, ainsi que dans certains cas, la souffrance du lien social, en particulier des familles, beaucoup plus complexe à analyser et à soulager. Il faudra de plus en plus discuter la place de l'individu dans nos sociétés modernes, voire post-modernes. Ce nouvel individu est caractérisé par son désir de bien-être, de réalisation individualiste de soi, d'un fonctionnement individuel sans faille et de recherche d'un idéal d'équilibre. Soulignons ici que l'information des patients, qu'elle soit directe ou indirecte, est devenue une exigence sociale et un droit individuel qui figure dans la loi du 4 mars 2002. Cette information du public devra nécessairement s'accompagner d'une formation et d'une éducation à la santé, dont les principes sont évidemment aux antipodes du fonctionnement actuel de notre système social, global et peut-être surtout médiatique, puisque ce dernier est essentiellement tourné vers l'immédiat, l'hédonique et le spectaculaire. Je voudrais maintenant conclure brièvement et donner quelques perspectives. Depuis sa naissance, la psychiatrie se situe résolument au carrefour de la médecine, des sciences sociales et des sciences humaines. Son exercice et sa théorisation sont fondés, en particulier depuis que l'OMS se préoccupe de santé mentale, sur un modèle dit biopsychosocial, qui tient compte des trois domaines impliqués dans la pathologie mentale, que sont le domaine biologique, le domaine psychologique et le domaine social. Ce qui doit l'amener à intégrer et à combiner les dimensions individuelles et collectives du psychologique et du social. La psychiatrie actuelle, je le crois, entend maintenir et amplifier son dialogue avec la société, notamment en ce qui concerne les réponses à apporter aux nouvelles demandes de soins, que celles-ci correspondent à une souffrance individuelle ou à une recherche d'amélioration du fonctionnement individuel en face du stress, en face de la compétition sociale ou en face du désir très important à l'heure actuelle d'accomplissement de soi. La psychiatrie est amenée à réfléchir de façon permanente sur son champ de compétences propres, tout en restant critique vis-à-vis des demandes croissantes des institutions sociales et politiques, qu'il s'agisse de demandes d'expertise, d'évaluation ou de soins, ou encore de mise en place de protections qui pourraient risquer de transformer le citoyen exerçant normalement son sens critique sur sa citoyenneté en un citoyen assisté et soupçonné de risquer de mettre en cause par ses comportements individuels un équilibre social de plus en plus instable et conflictuel. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication du médecin psychiatre Jean-François Alilaire consacrée au thème « Psychiatrie et société ». Écoutez les séances de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie consacrée en 2007 au thème de réflexion, santé, médecine et environnement, thème annuel placé sous la présidence de Lucien Israel.